session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 12 mars 1995 à Rimont, de la famille et la communauté politique.
Une petite modification dans l'horaire. Je trouve que 4 heures de cours, c'est beaucoup. Pas pour moi, mais pour vous. Alors, je crois qu'il faut respecter ce qu'on a fait au point de départ. C'est que c'est très bon, les carrefours. C'est nécessaire pour que vous puissiez poser vos questions en toute liberté. Parce qu'on a dit, si je me contente des questions que vous poserez, vous ne les poserez pas. Oui. L'idéaliste interroge plus. Pour rester réaliste, il faut toujours interroger. Parce qu'on ne possède pas la vérité, mais on est possédé par la vérité. C'est très, très différent. Et on est possédé par la vérité dans la mesure où on recherche. On ne s'arrête jamais. Le temps qu'on passe sur la terre est un temps d'épreuve. Et quand on est dans l'épreuve, on interroge. Quand on n'est plus dans l'épreuve, on croit posséder la vérité. Et au fond, c'est l'orgueil terrible, ça. C'est le pharisaïsme de l'intellectuel. Il croit posséder la vérité. Non, on la possède pas, la vérité. On cherche. Et si on cherche, on découvre tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. On n'a pas de système, vous voyez. Le système, c'est hegelien. Le système, c'est idéaliste. Tandis qu'au contraire, une vraie philosophie est une recherche permanente de vérité, en sachant très bien que la vérité nous possède. Et parce qu'on désire être possédé par la vérité, on est conduit à la contemplation. La contemplation, c'est ça, c'est être possédé par la vérité. On est en présence de quelqu'un qui nous dépasse infiniment, et auquel on n'a qu'un seul désir, c'est d'être possédé par lui. Tandis que si vous possédez la vérité, elle n'est pas très grande. Elle est à votre taille. Et la pauvre vérité, quand elle est à votre taille, si grand que vous soyez, vous êtes petit à côté de la vérité. Nous sommes tous petits à côté de la vérité. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que je n'aime pas du tout quand une session, on quitte avec des tas de questions sans qu'on ait pu les poser. Poser une question, c'est être vrai. Ne pas la poser, c'est un manque de vérité. Parce que ça veut dire qu'on ne veut pas chercher. On a peur. Par petits groupes, on n'a pas peur de poser les questions. C'est tellement important. Vous voyez, ça, c'est, j'allais dire, c'est l'hygiène fondamentale de la recherche de la vérité. Autrement, on s'asphyxie. Ça va plus du tout. Si les sessions sont faites pour s'asphyxier, c'est pas la peine. Chambre à gaz. Alors, c'est surchauffé, c'est très bien. Alors, on est ensemble, on est d'accord, mais dès qu'on part, plus rien du tout. Tandis qu'on part avec une lumière de recherche de la vérité. Oui, aujourd'hui, un des problèmes philosophiques très importants, c'est celui de la famille. En tant que chrétien et en tant qu'homme. Parce qu'on sait très bien que si on détruit la famille, on détruit le pays, la nation, la cité. Et on détruit l'humanité. Et c'est ce qui est en train de se faire. Si on regarde un tout petit peu autour de soi, avec un peu de critique et de sens, on voit que, de fait, on est en présence d'un péril imminent. Et ne pas vouloir le voir, c'est un manque de vérité. Vous voyez, c'est s'enfermer en soi, en disant, ça m'est égal. Si on se consacre à Dieu dans une vie religieuse, Regardez les quelques philosophes d'aujourd'hui sur la famille. Écoutez en Sorbonne ce qu'on dit sur la famille. Hein ? Vous avez des sujets d'agrégation sur la famille ? Non, non, non. Sans contre-fiche. C'est curieux, ça. Mais c'est très intéressant. C'est les traditions religieuses qui mettent la famille à une situation extraordinaire. Comme au fond, comme un très grand mystère. Et c'est vrai. Et c'est pour ça, du reste, que le philosophe qui aime souvent, c'est son défaut mignon, qui aime posséder la vérité et ne pas être possédé par la vérité, ne parle pas tellement de l'amour. Ni d'amour d'amitié, ni de la famille, parce que c'est quelque chose qui les dépasse. Alors ils aiment mieux parler de ceux qu'ils connaissent. Oui, ils aiment mieux posséder quelque chose, un système, quoi. Un système, le système de l'éducation, de zéro, premier moment de la naissance, jusque 8 mois, puis après, et ainsi de suite. On coupe en tranche l'homme, et on croit posséder l'éducation. Mais non, pas du tout, on possède rien du tout. Parce que, quand on éduque, or, dans toute amitié, il y a ça. L'ami éduque l'ami. Mais l'amitié est au-dessus de l'éducation. Si je t'aime pour t'éduquer, je suis sûr que je t'aime pas. Si je t'aime pour toi, je suis sûr que je t'éduque. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est plus important que tout le reste, parce que c'est les réalités profondes. Alors, entrons ou continuons cette recherche. Mais vous voyez, j'insiste, on a donné la topique historique. Platon, Aristote, on devrait. Et c'est ce que j'ai essayé hier au soir de compenser. On devrait donner une topique religieuse, de tradition religieuse sur la famille. Ce serait capital, ça. Et ça éclairerait plus que Platon et Aristote. Parce qu'il y a dans la famille, au cœur de la famille, il y a quelque chose de religieux. Religieux au sens le plus radical qui soit. C'est-à-dire le lien avec Dieu. Si je regarde la tradition judéo-chrétienne, je vois qu'il y a deux alliances naturelles avec Dieu créateur. Et ça, je le constate en tant que philosophe. Et j'ai parfaitement le droit de le dire. Personne ne l'a fait. On n'a pas continué, hélas. Personne n'a dit que les mystiques étaient ceux qui étaient les hommes les plus parfaits. Ce qui est vrai. Les vrais mystiques. Alors, je vois deux alliances. L'alliance de l'intelligence capable de découvrir l'existence de Dieu. L'alliance de Dieu dans la procréation. Ce sont les deux grandes alliances selon la tradition judéo-chrétienne qui, pour le philosophe, est la tradition religieuse la plus parfaite. C'est celle du reste dans laquelle nous sommes. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est la tradition dans laquelle on se trouve. Donc c'est la tradition la plus proche de nous et celle qu'on doit le mieux connaître, purement au plan philosophique. Ne pas connaître cette tradition judéo-chrétienne, c'est s'enfermer dans une petite armoire, n'avoir aucun regard. Nous appartenons à cette tradition judéo-chrétienne. Et je crois ça très très important. Et des quantités de choses ne peuvent se comprendre que si on regarde ça niveau de l'alliance profonde de notre intelligence avec Dieu. La recherche de la vérité a quelque chose de sacré. Le sacré, c'est ce qui est en contact direct avec Dieu. Et donc, c'est le religieux. Or, Luther a brisé cette tradition en disant l'intelligence, en raison des conséquences du péché originel, ne peut pas, par elle-même, affirmer l'existence de Dieu. Alors que, avant Luther, la tradition chrétienne affirmait toujours que l'intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu, bien qu'elle ne puisse pas dire ce qu'est Dieu. Et cette brisure est quand même quelque chose d'extrêmement important, puisque cette brisure fait que l'intelligence se laïcise et on identifie intelligence et raison. Et on identifie philosophie et logique. Or, la logique n'a rien à dire sur Dieu. C'est l'intelligence qui découvre la finalité, qui découvre l'amour. Aujourd'hui, quel est le philosophe qui a le plus d'influence sur beaucoup de théologiens qui sont autour de nous, théologiens actuels, donc qui font partie de la tradition judéo-chrétienne. Nous faisons partie de la tradition judéo-chrétienne. Pour quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur, des quantités de théologiens sont sous l'influence de la philosophie hegélienne. Et Hegel est considéré dans la famille luthérienne comme le premier théologien luthérien. Et Hegel le dit, je suis luthérien. Karl Barth a affirmé avec netteté, et Karl Barth est un grand protestant admiré par des quantités de protestants et par des quantités de catholiques. Karl Barth n'hésite pas de dire « Hegel est le premier théologien luthérien ». Et on affirme aujourd'hui constamment « Hegel a sur la pensée théologique moderne et philosophique l'influence d'un Aristote au Moyen-Âge ». C'est important de comprendre ça. Donc, la brisure de l'intelligence à l'égard de Dieu, elle continue. Pour Hegel, c'est la foi qui fait ressusciter l'intelligence. Donc, on est en plein fidéisme. Et le fidéisme a été condamné par l'Église. Et voyez ce que c'est que le fidéisme. Vous le demanderez tout à l'heure, comme ça vous aurez au moins une question. Et l'autre alliance, la procréation, c'est aujourd'hui ce que les attaques les plus perfides sont en train d'essayer de démolir, de supprimer le caractère sacré de la procréation, donc le caractère religieux de la procréation, et de voir cela uniquement d'un point de vue positiviste. Car, qui est dans l'homme, c'est de rechercher sa source. C'est de mettre toute l'humanité d'un pays et par là du monde entier. Puisque la laïcité française a un désir de s'emparer de toute la laïcité européenne. Il ne faut pas l'oublier. C'est très net. Vous voudrez être très, très aveugle pour ne pas le voir. Et par là, être l'apôtre de la laïcité. La dimension religieuse fait partie essentielle de la personne humaine. Alors quand je dis la dimension religieuse, voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme est capable par lui-même de découvrir l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas une invention du philosophe. Le mot Dieu provient des traditions religieuses, comme le mot âme, ça provient des traditions religieuses. L'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, que les traditions religieuses considèrent comme le Créateur. Mon intelligence, si elle cherche la vérité jusqu'au bout, se pose nécessairement la question, existe-t-il un être premier au-delà de l'homme ? Se poser la question, c'est nécessaire pour toute intelligence qui cherche la vérité. J'aboutis à cette question-là, qui est la grande question philosophique. Existe-t-il un être premier au-delà de cet être que je connais, qui est moi, au-delà de mon je suis. Et je dois répondre à cette question, ce qui n'est pas commode, mais qui est la grande question de l'intelligence. Si l'intelligence découvre à ce moment-là l'existence d'un être premier que les traditions appellent Dieu, il faut répondre à cette découverte. Oui, qui n'est pas une conclusion, hein, qui est une découverte. Je ne peux pas dire il est nécessaire qu'il existe un être premier, que c'est une conclusion. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est une découverte. Et je, devant cette découverte, il y a immédiatement une attitude radicale. Cet être premier, je dois l'adorer. Puisqu'il est mon créateur, créateur de mon âme, créateur de ma vie, créateur de mon être, créateur de mon intelligence, créateur de ma capacité d'aimer, je dois l'aimer. Et l'adoration est une opération fondamentale de l'homme. Adorer, c'est l'exigence principale d'un être humain. Ce n'est pas d'ordre confessionnel. C'est tout simplement humain. C'est spirituel. Mais l'homme est un être spirituel. Je peux le savoir selon ma foi de chrétien, mais je peux le savoir aussi au plan philosophique que mon âme spirituelle ne peut pas provenir de mes parents. Ce n'est pas... Alors ça, c'est le traité de la philosophie du vivant. Mon âme spirituelle ne peut pas provenir de mes parents. Mes parents ne peuvent pas être source d'un être nouveau, spirituel. Ils peuvent être source, au plan génétique, d'un être nouveau. Mais cet être nouveau est un homme. Et je m'en aperçois à la naissance. Je m'aperçois quand il sourit. Je m'aperçois quand il grandit, quand il devient une personne humaine. Donc, les parents ne sont pas source de l'âme spirituelle. Qu'est-ce qui est source de l'âme spirituelle ? Le Créateur, Dieu. Dieu Créateur, Père de mon âme spirituelle. Donc, la procréation qui provient de cet amour particulier de l'époux et de l'épouse, qui provient de cet amour qui a un caractère unique, puisque cette amitié peut être source d'une vie nouvelle, peut être source de la conception d'un nouvel être et d'un être, si je respecte cette conception, qui peut aboutir à la naissance d'un être nouveau, d'un homme. Les parents, dans la procréation, coopère avec le Dieu créateur. Et même, il y a cette chose très étonnante, que c'est le Dieu créateur qui se soumet au choix des parents, au choix de l'amour, d'amitié, de l'époux et de l'épouse. Dieu ne donne pas un ordre impératif. Dieu ne donne pas un planning familial. Dieu laisse aux parents leur liberté de s'aimer et d'être source de vie nouvelle. Ça, c'est l'amour merveilleux de Dieu pour l'homme. Si vous réfléchissez un seul instant à ce que peut être le Créateur par rapport à la créature, c'est fou de faire cette totale confiance à l'homme. Et si Dieu fait cette totale confiance à l'homme et à la femme, aux époux, aux parents, c'est parce que Dieu les aime. Parce que quand on voit les conséquences de cette liberté de Dieu, on voit bien. sacré et de religieux. Alors vous comprenez pourquoi toutes les traditions religieuses sont tellement attentives à la famille, à la procréation. Elle a quelque chose que je crois nous devons tous découvrir au plan philosophique. Comprendre qu'il y a là quelque chose d'unique. Parce que l'amour d'amitié entre philosophes qui recherchent la vérité, c'est quelque chose de très grand. C'est sûrement dans l'ordre de l'amitié, au point de vue humain, ce qu'il y a de plus grand. Vous voyez, on recherche ensemble la vérité. Et quand on recherche ensemble la vérité, ensemble, on découvre que l'intelligence humaine est faite pour découvrir Dieu. Et si on le découvre ensemble, ça nous lie profondément quant à notre recherche de la vérité à Dieu lui-même. Et cette amitié devient sacrée. Elle implique un aspect religieux. Vous voyez, comme c'est curieux, l'amour d'amitié porte sur l'homme dans sa personnalité. Or, la personne humaine, si je la regarde dans sa perfection, implique un lien possible avec Dieu. Là encore, voyez, les traditions religieuses judéo-chrétiennes sont intéressantes parce qu'elles nous disent que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Ce qui montre que selon cette tradition judéo-chrétienne, l'acte créateur de Dieu sur l'homme et la femme implique une relation immédiate avec Dieu. Autrement, on n'est pas à l'image de Dieu. Pour le philosophe, c'est une confirmation. Ce n'est pas une raison, c'est une confirmation, c'est un signe merveilleux. Parce qu'il doit pouvoir, en tant que philosophe, comprendre que l'homme n'est parfaitement homme comme personne humaine que lorsqu'il a découvert l'existence d'un être premier qu'on appelle Dieu, qui est le Créateur. Et donc, en aimant l'homme comme un ami dans sa personne humaine, j'aime tout ce qui fait partie essentielle de sa personne. Et la découverte de l'existence de Dieu fait partie essentielle de sa personne. Puisque c'est à ce moment-là où il découvre parfaitement sa finalité. Il est fait pour découvrir Dieu. Il est fait pour adorer et pour contempler Dieu. Et donc, dans l'amitié, il y a virtuellement, pas toujours en acte, mais ça peut être en acte, quelque chose de sacré. Aimer une personne qui est à l'image de Dieu, aimer une personne qui est capable de découvrir Dieu, aimer une personne dont l'âme est créée directement par Dieu, l'aimer pour elle-même, c'est quelque chose qui est au-delà de l'aspect moral. C'est du sacré. Si je prends le point de vue moral, la responsabilité à l'égard de l'homme, j'entre dans cette dimension nouvelle de l'éthique, qui est l'éthique religieuse, et qui me met dans une zone qui dépasse le point de vue purement horizontal et qui me fait découvrir cette dimension verticale de l'homme, capable d'être en relation directe avec Dieu. l'amitié de l'époux et de l'épouse. J'aime celui ou celle que je choisis comme ami en vue de la procréation, donc en vue de cette alliance avec Dieu, de cette coopération avec le Créateur. Il y a donc quelque chose qui dépasse le point de vue purement moral, humain, fondamentalement humain, et qui me fait toucher le point de vue religieux. Je crois qu'il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que c'est un des points qui sont les plus attaqués aujourd'hui. Alors on doit être particulièrement éveillé là-dessus. Et on doit considérer qu'il y a là quelque chose de très très grand, que je n'ai pas le droit de ne pas regarder. Alors ça met tout de suite, vous voyez, pour la famille, une dimension religieuse qui donne à la famille un caractère sacré et qui fait que la famille échappe comme telle à l'aspect politique dans ce qu'elle a de fondamental. dire, dans un regard de sagesse, que la différence entre la régulation naturelle des naissances et la contraception artificielle, pilule ou avortement, vient de ce que la contraception artificielle va directement contre l'intention créatrice de Dieu et d'une certaine manière plus grave que un meurtre, au sens où elle supprime un être et pas seulement un être vivant. Oui. Est plus intelligent. d'accord qu'il y a des hommes bêtes et qu'il y a des hommes pas très intelligents et qu'il y a des femmes aussi pas très intelligentes. Mais que, de fait, l'intelligence de la femme a quelque chose de particulier et l'intelligence de l'homme aussi. Mais la complémentarité est beaucoup moins forte. C'est autre chose. C'est une coopération plus qu'une complémentarité, je dirais. Tandis que pour le point de vue de la procréation, c'est vraiment une complémentarité au sens très fort. Et Dieu l'a voulu comme ça. Vision du Créateur. Que le philosophe essaie de comprendre. Parce qu'il est en face de la famille. Il est en face de ce problème de la procréation qui le dépasse complètement. La fécondité est pour un philosophe un mystère. Comme un grain de blé produit des quantités de grains de blé. Comment un être humain, deux êtres humains, sont capables d'être source de vie. Ça me dépasse complètement. On essaiera de montrer les conditions pour que la fécondité puisse avoir lieu. Ce sont les conditions. Ça n'explique pas ce que c'est que la fécondité. La fécondité reste pour le philosophe un mystère. Qu'il constate, qu'il est obligé de constater. Ce serait complètement stupide de le nier. Mais il y a quelque chose d'infiniment mystérieux. Très grand, puisque c'est par là que l'homme va participer à la création. Participer, vous voyez dans quel sens, hein, je le mets entre guillemets, c'est pas une vraie participation, mais c'est d'être le plus proche possible de la création. C'est inouï. La création de l'âme dans le fœtus, dans le tout petit, et quelque chose qui nous échappe. Hein. Qui d'entre nous pourrait dire à quel moment son âme a été créée? Je voudrais bien le savoir. Moi, je ne le sais pas. J'avoue, je ne sais pas. J'ai beau réfléchir. Qu'est-ce que j'étais dans le sein maternel? Je ne le fais pas souvent, parce que je sais que je ne peux pas, alors. Alors, je ne le fais pas souvent, c'est une perte de temps. Mais je comprends très bien que c'est un problème foncier. J'ai été dans cet état-là. Et ma mère m'a respecté. Et c'est là où j'ai une vénération pour ma mère. Ma mère m'a respecté. Elle aurait pu très bien ne pas me respecter. Elle m'a respecté. C'est pour ça que j'existe. Donc vous voyez, j'existe grâce à Dieu, mais grâce à ma mère. Et ma mère a été liée de façon étonnante à cette création de l'âme. Elle l'a acceptée. Elle en a vécu. D'une façon très obscure, du reste. Très obscure. Mais elle en a vécu. Je constate ça. Je suis devant ce mystère. Et je dois aujourd'hui l'étudier d'une façon encore beaucoup plus forte, parce que les savants voudraient saisir ce mystère et en être le maître. Ils n'acceptent pas qu'il y a quelque chose qui les dépasse. C'est très difficile pour le savant, ça, d'accepter que la réalité est toujours plus que ce qu'on en sait. Et quand il s'agit de la procréation, alors c'est encore beaucoup plus net. Il y a l'alliance de Dieu avec l'homme. Cette alliance est une alliance de sagesse. Toute l'œuvre de la création est une œuvre de sagesse. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'il puisse y avoir dans la créature un don complet dans l'amour. Et pour qu'il puisse être source de vie. Il ne faut pas l'oublier. Ils sont source de vie. Et ils coopèrent avec Dieu. Et Dieu, ça c'est la politesse de Dieu. Dieu Dieu qui prend l'initiative. C'est les époux. Dieu les laisse passer devant parce que Dieu lui-même les aime profondément et veut cette coopération. Mais il y a eu des philosophies, il ne faut pas l'oublier, et il y en a encore. Il y a eu des philosophies qui ne veulent pas accepter que l'homme et la femme soient cause de vie. Et qui mettent tout sur la création de l'âme. Non. Ils sont père et mère, et donc ils sont source de vie. C'est vrai, ils sont source de vie pleinement par la création de l'âme, c'est sûr, mais ils sont source de vie. C'est pas seulement des instruments. Non, 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 non. Et l'enfant ressemble à ses parents. L'atavisme. Cette force de l'atavisme. Étonnant. Et les parents sont responsables de la création de la vie. S'ils étaient pur instrument, ils diraient, oh, tu as fait ça, il ne m'a pas demandé la permission. Ah oui. Dieu sait et a averti dans une alliance. Et cette alliance, l'homme et la femme doivent la connaître. S'ils sont des hommes pleinement responsables de ce qu'ils font. C'est évident, il y a des quantités de gens qui ne sont pas responsables. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein, et qui ne savent pas. Surtout aujourd'hui. Mais c'est triste. C'est pas eux qui vont me faire comprendre la vérité. Qui vont me faire comprendre ce qu'il y a de plus grand. Et donc, Dieu demande à l'homme et à la femme de se connaître. Et qu'on distingue alors des périodes de non-fécondité, des périodes de fécondité. Mais c'est très bien ça. C'est participer davantage à la sagesse de Dieu. Et ceci montre que l'union de l'homme et de la femme sont premièrement une union d'amour. Ce n'est pas la fécondité qui justifie l'union d'homme et de la femme. C'est leur don d'amour. Et ça, c'est très important. Et Thomas d'Aquin, en bon théologien, dit que la première finalité du mariage, c'est l'amour des conjoints. Et il faut respecter ça. La première finalité, c'est l'amour des conjoints. La seconde finalité, c'est la procréation. Et la troisième finalité, c'est l'éducation. Et ça aussi, c'est très important. Ne laissons pas les psychologues s'emparer d'éducation. Et les mères et les pères ont quelque chose à dire de plus important que les psychologues. Parce que ils ont la responsabilité de l'éducation. C'est très très important aussi ça aujourd'hui, de comprendre ça. Parce que la science, ou psychologique, ou biologique, voudrait s'emparer de cette responsabilité. Alors que non, cela fait partie de l'amour, d'amitié, de l'époux et de l'épouse. Cela fait partie de cela. Alors, que de fait, on puisse découvrir les périodes de nos fécondités, à peu près, ou l'expression de Thomas d'Aquin, qui est l'expression d'Aristote, quand il s'agit des réalités biologiques, c'est ut in pluribus, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est à peu près comme ça. C'est à peu près, mais on n'en est pas absolument sûr. La nature a des secrets qu'on ne connaît pas. Hein. On ne sait pas tout. Mais c'est à peu près ça. Ça suffit pour respecter la finalité. Alors très bien, on respecte ces périodes de fécondité si on sait que l'union de l'époux et de l'épouse permet un plus grand amour. La finalité, c'est leur amour spirituel. C'est pas la jouissance. Non, c'est leur amour spirituel. C'est cette confiance qu'ils doivent avoir l'un. arrêter la fécondité. Cela, ce n'est plus respecter l'alliance avec Dieu. Et donc, c'est abuser d'un pouvoir qui n'est plus légitime. Notre morale humaine, notre éthique humaine ne repose pas sur les connaissances scientifiques. Les connaissances scientifiques peuvent aider, mais ce n'est pas sur les connaissances scientifiques. La morale repose sur l'amour, la finalité, la découverte de l'esprit et de sa finalité propre. Vous savez bien que c'est une des grosses questions d'aujourd'hui, ça. Et c'était des questions qui étaient très importantes et qui sont reprises aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. Mais dans les rencontres internationales de Genève, Mono, de son vivant, avait déjà déclaré avec netteté « La morale doit se modifier en fonction des progrès de la science. » Bon, ça, c'est une position positiviste. La morale humaine, c'est pour le développement plénier de l'homme dans la découverte de sa finalité, ce pourquoi il est fait. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, la science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour le progrès de la science? Paraît-il, mais je le sais de source absolument sûre, parce que quelqu'un qui était là, il y a quelques années, il y a eu un congrès, une session importante à Helsinki, en Finlande, sur la question de la pollution. C'était du temps de Mao. Alors quelqu'un qui était, qui représentait un tout petit pays, c'était l'avantage parce qu'il était très libre. Il y avait un représentant du Vatican. Alors les maoïstes en uniforme, maoïstes, ils étaient 6, se sont levés. Dès le début, on demandait la parole. Êtes-vous d'accord, vous tous qui êtes là, sur le fait que la science est au service de l'homme et non pas l'homme au service de la science? Personne n'a osé répondre. Même pas le représentant du Vatican. Il y a eu un moment de silence. Alors ils se sont assis. Puis ils ont laissé les autres parler. Ils n'ont plus intervenu. Au milieu du congrès, quand on pataugeait de savoir comment on va. La pollution. On va laisser la pollution faire que les gosses vont attraper des tas de maladies parce que l'air sera pollué, qu'ils ne pourront plus respirer. Quand on va les porter sur le dos pour qu'ils puissent respirer au-dessus de ça, quand ils sont traînés dans une petite charrette, on sait très bien que la pollution est d'autant plus grande qu'elle est tout près du sol. philosophie idéaliste qui commence par ce que l'homme possède en lui. Considérer que mes connaissances sont la mesure de la réalité. Alors là, oui, il y a un péché d'orgueil constant, latent. Tu vois, il y a une tentation d'orgueil constante. L'homme mesure de toute chose. L'homme mesure de toute chose, c'est la connaissance de l'homme qui devient mesure de toute chose. Alors qu'une philosophie réaliste montre toujours que l'homme, qui est la réalité la plus parfaite que je connais immédiatement, la seule réalité la plus parfaite que je connais immédiatement, c'est l'homme. Je n'ai pas une expérience philosophique immédiate de Dieu. Je l'ai dans la foi. Mais la foi est faite pour me donner une nouvelle finalité. Je suis fait pour voir Dieu un jour. Ça, c'est le mystère de la foi. La foi n'est pas donnée pour connaître le monde et l'homme. La philosophie doit m'aider à cela. Et les sciences. C'est la coopération des sciences et de la philosophie. Mais en comprenant que les sciences ont une connaissance de extérieur, de mensuration, dépendante plus ou moins des mathématiques, qui ne me fait pas découvrir la finalité de mon âme spirituelle. C'est la philosophie qui fait découvrir la finalité de l'âme spirituelle. Si je fais de la philosophie, c'est pour connaître l'homme dans toutes ses dimensions, pour connaître la personne humaine. Donc alors là, il n'y a pas de danger d'orgueil. Au contraire, une philosophie réaliste est source d'humilité. Parce que je suis possédé par la vérité, que je ne possède pas la vérité. Lors de la procréation, à quel moment est créée l'âme spirituelle? La grande question. Je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a tout un courant de très bons catholiques. Catholiques de droite, parce que ça, c'est ça. Qui disent que l'âme est créée immédiatement, dès le point de départ de la conception biologique. Je le sais. Alors quand je les rencontre, je leur dis, sur quoi repose votre argumentation? Il n'y en a pas. C'est le Saint-Père qui le dit. Le Saint-Père n'a jamais dit ça. Et la tradition de l'Église n'a pas dit ça non plus. Vous dites ça pour avoir un argument plus fort contre l'avortement. Et pour dire c'est un meurtre, vous tuez un homme. Alors, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu d'apologétique là-dedans. Et j'ai peur d'apologétique et je l'aime pas au plan philosophique. Je crois qu'il faut avoir une humilité, dire on ne sait pas. Le meurtre existe de toute façon. Parce que le meurtre est dans l'intention. Tous les péchés sont dans l'intention. C'est pas ce qui existe qui est le meurtre. C'est dans l'intention. Or, selon la nature, et la nature me dépasse, la conception biologique conduit à la naissance d'un homme. Sauf si, dans le parcours, il y a fausse couche. Comment expliquer ça? Ça, difficile à expliquer, mais ça existe. Je constate un fait, c'est que l'Église n'a jamais demandé de baptiser les fausses couches. Or, si vérité qui doit fonder l'apologétique. Un Thomas d'Aquin qui est parfaitement catholique, hein, mais pas sans doute quoi, quand même, qui est un bon catholique, Thomas d'Aquin, considère que l'âme humaine est créée au bout d'un certain temps, parce qu'il faut que l'embryon soit suffisamment formé pour que l'âme soit en harmonie avec le corps que l'âme informe. Alors dire ça, c'est la conception aristotélicienne. Non, puisque saint Thomas ne suit pas entièrement Aristote là-dessus. Il suit une certaine tradition. Au fond, on ne sait pas. Il y a des signes, et puis c'est tout. Il y a des signes. On a essayé de rechercher ça à Saint Jodard, puisque ça faisait partie de la philosophie du vivant. Et comme il y avait parmi les novices quelqu'un qui avait 6 ans de sciences biologiques, un autre qui en avait aussi à peu près la même chose, j'aurais demandé exposer devant tous ce que la science dit. Puis après, posons-nous la question, pouvons-nous, à partir de la science, préciser à quel moment l'âme est créée ? La conclusion qui s'en dit non, loyalement. Mais il y a peut-être des indices. Alors moi je suis parti de cet indice parce que je trouve cet indice qui relève des traditions religieuses extrêmement intéressant. L'âme est dans le sang. L'âme, c'est le sang, c'est la tradition judéo-chrétienne. À quel moment, dans le développement de l'embryon, à quel moment l'embryon a son autonomie par rapport à son sang? Au point de départ, il est en dépendance étroite de la mère. Pour moi, c'est le petit signe. Puisque si l'âme est forme du corps, elle donne au corps son autonomie. C'est une question importante et intéressante. Or, ça correspond au moment où, paraît-il, l'embryon prend une figure humaine. Alors, il y a la figure et le sang, comme 2 indices. 6e semaine, 7e semaine. Je crois qu'il faut dire que la création de l'âme, dès le point de départ de l'embryon, de la conception biologique, cette conception est ordonnée à recevoir l'âme. C'est pour l'âme. Et donc, tout de suite, c'est un être humain et qu'on doit respecter. Parce qu'il y a un ordre vers l'âme, et que, biologiquement, il y a un chiffre biologique distinct de celui des parents. C'est très beau, ça. Mais ça, c'est les parents qui sont source de vie. Et ça peut s'expliquer de cette manière-là, philosophiquement parlant. Ils sont source de vie, donc c'est eux qui sont source. Et l'enfant est tellement lié à sa mère qu'on ne peut pas le séparer de sa mère. On le sait très bien. Il vit conjointement à sa mère, tout en ayant un chiffre biologique distinct. Le chiffre biologique ne vient pas de l'âme. Autrement, la science biologique m'obligerait de poser l'âme. Alors, la science biologique n'atteint pas l'âme. Elle atteint les dispositions. Ah oui, les dispositions vers quelque chose qui dépasse la science biologique. Je crois qu'on doit dire ça au plan philosophique, que je ne sais pas à quel moment exact il y a des signes. Je ne sais pas à quel moment exact. J'accepte cette ignorance que le l'âme est créée par Dieu. Et le chrétien sait que la procréation implique cette alliance de Dieu avec les parents. Mais le chrétien ne sait pas non plus à quel moment exact. Ça importe peu. L'homme est né dans les catacombes biologiques. C'est du reste beaucoup plus beau et je comprends beaucoup mieux ça, moi, dans la sagesse de Dieu. Il nous demande cette totale confiance dans son œuvre d'amour. Et c'est le fruit de son œuvre d'amour, de coopérer avec la mère d'une façon très particulière, c'est sûr. La conception biologique, elle dépend directement de l'homme et de la femme, de l'époux et de l'épouse. Mais à quel moment de la gestation l'âme est-elle créée? Je peux émettre des hypothèses. Je sais que l'âme a été créée et qu'on aperçoit au terme quand l'enfant est né et que le petit de l'homme est distinct de tous les autres animaux. Bien que biologiquement, il puisse y avoir beaucoup de ressemblances. C'est normal. On a toujours dit que l'homme, au plan de sa réalité fondamentale, donc au plan de la connaissance générique, animal, raisonnable. Il y a le corps et l'âme. Il y a l'atavisme. Et donc, la causalité des parents doit être respectée. Et Dieu la respecte plus que n'importe qui. Parce que Dieu veut une coopération entre l'homme et la femme et lui-même. Et c'est lui qui maintient cette coopération et qui lui donne toute sa force. C'est très beau, et c'est très grand. Vous voyez, alors, ceux qui prétendent, et qui disent que l'âme est créée tout de suite dès le point de départ, vous savez, je ne vais pas me battre contre eux. Ce sont des braves gens, très très braves, merveilleux, et qui combattent contre l'avortement, très très bien. Mais il ne faut pas être obnubilé par ça. Il ne faut pas prendre tous les arguments. Il faut réfléchir les arguments qui peuvent exister au niveau éthique fondamentalement humaine, éthique religieuse, éthique chrétienne. Le reproche que je fais à beaucoup de catholiques, c'est qu'ils confondent tout et qu'ils ne distinguent pas assez parce qu'ils n'ont pas assez de philosophie. L'éthique fondamentalement humaine, c'est l'amour d'amitié et la responsabilité à l'égard d'un être nouveau, tout à fait dépendant biologiquement de la mère et dont la mère est responsable. L'argument au point de vue proprement religieux, c'est le point de vue de la création de l'âme. Je suis en phase d'une coopération avec Dieu, donc je dois respecter cette coopération selon la sagesse de Dieu. Et je dois respecter cet ordre de la sagesse de Dieu. Et au point de vue éthique chrétienne, c'est que Dieu veut que ce petit être soit un fils de Dieu par le baptême. Et donc je m'oppose à, je vais dire, l'achèvement plénier de la rédemption. Je continue maintenant. Mais tout ça n'est pas en dehors de ce que nous avons essayé de comprendre, le caractère tout à fait particulier de la famille. C'est évidemment l'amour d'amitié impliquant la possibilité d'un être nouveau. C'est ensuite le regard de la procréation. Et troisième finalité, même si c'est saint Thomas qui l'a dit, c'est vrai. Philosophiquement, c'est vrai. Vous avez trois finalités qui expliquent ce que c'est que la famille. L'amour d'amitié, l'enfant, qui est une finalité seconde. par ma propre volonté de supprimer. Et puis, troisième finalité, l'éducation. Et là, je crois que c'est aussi très important de comprendre ça. L'éducation fait partie de la responsabilité des parents à l'égard du petit qui naîtra d'eux. Les parents sont responsables de la naissance et donc de toute l'évolution et le développement embryonnaire. Et la mère est particulièrement responsable. C'est la responsabilité maternelle la plus fondamentale, c'est celle-là. La responsabilité la plus explicite, c'est leur amour d'amitié. Mais la responsabilité la plus fondamentale, c'est celle-là. C'est pour cela que l'avortement fait toujours un choc terrible sur une mère. Et c'est beaucoup plus ça qu'on doit regarder. Parce que c'est un manque de responsabilité. On n'a pas condamné, mais on a constaté. Parce qu'il y a des tas de raisons, surtout aujourd'hui, hélas. Vu le climat dans lequel on est. On considère que l'avortement peut être une libération. Parce que on n'aime pas l'enfant. Mais c'est terrible, une mère qui n'aime pas son enfant. C'est terrible. Il y a quelque chose d'antinaturel. Alors, il y a une destruction de quelque chose de très profond, de très radical. Et ça, on le sait. Et je vous affirme, quand on est devant des cas comme cela, on voit combien c'est un choc très très fort. L'éducation. Le petit enfant est confié aux parents d'une manière tout à fait particulière. Parce que de fait, quand l'enfant de la femme, de la mère, née. Il est dans une fragilité, une vulnérabilité extrême. Et donc, il est dépendant de sa mère, de son père, mais surtout de sa mère, au point de départ, d'une manière unique. Et tous les animaux tout à fait le même que la main très tendre d'un petit enfant. c'est l'art de l'éducation. C'est sûr. Pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a-t-il fait que le petit de l'homme et de la femme naît dans une telle fragilité? Je suis persuadé, c'est pour que le papa apprenne la tendresse. Pas commode pour un homme d'apprendre la tendresse. Il redécouvre son enfant. Exercer toute sa tendresse et tout son amour. La première éducation est maternelle, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Et parce que c'est la première éducation, elle est maternelle, elle joue un rôle fondamental. Elle est première, elle est maternelle. Ensuite, le père va agir pour faire découvrir à l'enfant progressivement l'autorité. Et je crois qu'il faut toujours respecter ces deux aspects.